Merci à Olivier Denret qui sera de retour à 9h pour un nouveau journal. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
La question centrale pour un journaliste, je crois, c'est celle du doute. C'est très sain, le doute. C'est, si vous ne doutez pas, vous ne pouvez pas être journaliste. Il faut douter, évidemment, de tout, et à commencer de la version officielle.
Ce qu'il faut, notre métier, c'est de livrer une information qui soit la plus rigoureuse possible.
Bienvenue à tous dans le secret des sources sur France Culture et comme toujours, bienvenue à tous vos commentaires et toutes vos contributions sur franceculture.fr. Aux manettes ce matin, Vincent Abouchard, Emmanuel Morzincan et Mathias Mégy. Près de 100 000 morts, 4 millions de réfugiés ou de déplacés, c'est le lourd bilan en un peu plus de 2 ans de la guerre civile en Syrie. Ces derniers jours, la situation militaire s'est particulièrement aggravée autour du verrou d'Al-Qusayr près de Homs où les combats sont acharnés et dans le même temps, la situation diplomatique est marquée par la réunion de la coalition nationale syrienne à Istanbul. Elle s'achève aujourd'hui. En jeu, une éventuelle participation à une conférence de paix à Genève le mois prochain. Pourtant, malgré cette double actualité, la Syrie est restée à l'arrière-plan dans de nombreux médias cette semaine encore. Effet de lassitude, sans doute, doublé d'une évolution du discours médiatique dominant sur le sujet, désormais beaucoup plus sceptique vis-à-vis de la rébellion. Syrie, le vent médiatique est-il en train de tourner? C'est la question que nous allons poser ce matin à nos trois invités. Trois journalistes parmi les rares à bien connaître la Syrie. Le photographe et journaliste indépendant franco-syrien Amar Abdrabo, vous étiez à Alep il y a 10 jours encore, bonjour.
Bonjour.
La journaliste de Mediapart et spécialiste de la Syrie, auteur notamment du livre L'exception syrienne, Caroline Donati, bonjour.
Bonjour.
Et le journaliste de l'AFP, Hervé Bar, vous venez de passer plus de 6 mois en Syrie, vous êtes rentré en février, bonjour.
Bonjour.
À nos côtés également, comme toujours, l'homme du multimédia Éric Chavroux et l'analyste extérieur cette semaine, le sociologue des médias Jean-Marie Charon, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
L'avion a bombardé, détruit ma maison et tué mes frères, mes sœurs et mes parents.
2 jours avant la fin des combats, l'armée a incendié nos maisons.
Nous sommes à 40 km de Damas. Les traces laissées par les combats qui se sont déroulés ici en début d'année sont encore visibles. Aujourd'hui, dans cette région passée sous contrôle de la rébellion, les routes sont désertes.
En ce moment, ils ne nous bombardent pas, mais on ne sait jamais quand ça va recommencer.
Extrait d'un reportage de Patricia Lemonnier diffusé dans le JT de TF1 lundi dernier, l'un des quelques reportages effectués en Syrie ces dernières semaines. Mais les reporters présents sur place ont quand même tendance à se faire plus rares et leur témoignage est d'autant plus précieux. Nos invités qui pour partie reviennent de Syrie en font partie. Il est vrai que pour les médias aussi le bilan est lourd. Rappelons-le, 23 journalistes professionnels tués en 2 ans, 7 autres portés disparus, morts également, 58 reporters amateurs, reporters citoyens. On est frappé par les hésitations aujourd'hui de nombreuses rédactions à envoyer des équipes de leur rédaction, des journalistes professionnels sur place. Quelle est pour vous l'explication principale? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est devenu extrêmement dangereux? Amar Abdrabo, vous qui revenez d'Alep.
C'est dangereux, mais c'est...
Mais c'est faisable.
C'est faisable. Moi, ce qui me surprend, c'est une espèce d'hypocrisie de certains médias qui vous disent « on veut bien avoir des reportages, mais on ne veut pas envoyer de reporters. Donc allez-y, débrouillez-vous ». Et revenez nous voir avec ce que vous avez. Mais nous, on ne veut absolument pas être liés. Si vous arrive quelque chose là-bas, on ne veut pas qu'on dise « c'est nous qui vous avons envoyé, c'est nous qui avons financé ce voyage, qui avons produit ce reportage ». Il n'y a pas longtemps...
Ce qui conduit à un recours à des pigistes, pas toujours nécessairement d'ailleurs ce qui très bien informés ou compétents, oui, qui n'ont pas nécessairement d'assurance qui les couvre, etc.
Absolument. C'est ça les gens partent sans assurance, ils partent parfois sans matériel adéquat, ils partent sans connaissance du terrain. Enfin, en essayant de ramener quelque chose d'intéressant... Dans tous les conflits, il y a eu des choses comme ça. Mais là, vraiment, il y a cette espèce... Moi, je me souviens, il y a 10 ans ou il y a 20 ans en Bosnie, par exemple, quand vous alliez voir un journal, si vous aviez un peu de connaissance du terrain ou de la situation, on vous disait toujours, bon, ben, on va te payer le billet d'avion, un gilet pare-balles, enfin quelque chose, quoi, pour pouvoir travailler confortablement. Là, c'est... Ah, c'est super intéressant, mais alors... Alors bon, en plus, il y a la crise économique qui fait qu'on ne veut pas mettre de sous.
Mais c'est d'abord pour vous, parce qu'on ne veut pas assumer la responsabilité.
Mais on ne veut surtout pas assumer. Et il y a eu une situation qui était vraiment extraordinaire, enfin très, très gênante, quand il y a eu notre confrère Olivier Voisin, il y a maintenant 3 mois.
Photographe également.
Photographe qui a été assassiné. Il était pigiste, entre autres, pour l'AFP, pour l'agence France-Presse. On a vu sur des sites fleurir des accusations énormes sur l'agence France-Presse Enfin, qui disait, oui, c'est l'AFP qui l'a envoyé au casse-pipe, qui l'a tué. Enfin, je suis très surpris de lire des choses comme ça. Et du coup, qui doivent encore plus refroidir des responsables à Paris ou à Levallois-Perret ou je ne sais pas où, ou à Londres, et qui ne veulent vraiment pas avoir leur nom à côté du nom de quelqu'un qui est tué.
Et justement, Hervé Barin, l'Agence France-Presse a édicté d'ailleurs là, au début du mois, enfin, des règles assez strictes, spécifiquement sur le conflit syrien.
Absolument. Les règles étaient déjà très strictes. Elles ont été encore renforcées il y a quelques semaines. La Syrie fait peur, je crois quand même un peu à juste titre. Quand vous allez sur place, vous êtes dans une guerre relativement classique, dans le sens où vous avez affaire à des tirs d'armes légères, des embuscades, etc., qu'on trouve dans tous les autres conflits. Vous faites face aussi, en tant que journaliste, hein, vous êtes confronté à des bombardements d'artillerie, ce qui est un peu moins fréquent. Vous êtes aussi confronté à des bombardements aériens, ce qui est beaucoup moins fréquent. Ces bombardements sont quasi quotidiens. Vous êtes confronté à des scuds. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. Il y en a un qui est tombé pas loin de moi à 1 km. Je peux vous assurer que c'est comme un mortier de 120 qui tombe à 10 mètres. Enfin, on ne se rend pas compte de ce que c'est d'ailleurs. Mais voilà, donc ça, c'est assez unique. Vous êtes confronté à un risque chimique, certes limité.
On en reparlera évidemment en détail tout à l'heure.
Qui existe. Vous êtes confronté à un risque djihadiste. C'est-à-dire que quand vous évoluez dans ces zones sous contrôle rebelle, où il n'y a pas de véritable gouvernance, vous avez face à vous des barbus, enfin, je caricature un petit peu, vous ne savez pas vraiment qui c'est.
Enfin, ça veut dire qu'on peut être pris pour cible des deux côtés. Enfin, quand je dis deux côtés, ça peut être deux, trois,
ça,
quatre,
ça, c'est du côté
côtés.
Rebelle. Mmh. C'est-à-dire que vous avez ce facteur djihadiste que vous ne contrôlez pas. Vous pouvez vous retrouver face à un individu qui peut s'avérer très dangereux. La plupart sont indifférents. Certains peuvent être très hostiles. Vous avez un risque criminel, puisque dans ces zones, vous avez aussi des kidnappings. Ça concerne beaucoup les Syriens, un peu moins les Occidentaux, donc on en parle moins. Mais il y a un risque criminel. Et vous avez, enfin, les risques des agissements des services secrets syriens qui sont très actifs dans ces zones pour déstabiliser ces zones. Donc voilà, les risques sont multiples, ce qui fait que pour gérer votre sécurité, c'est un vrai casse-tête. Et à la fin, vous avez du mal à gérer, à maîtriser tous ces facteurs, en tout cas avoir une idée des risques auxquels vous pouvez être confronté.
La conséquence directe de ça, c'est que c'est très difficile d'avoir des informations fiables, recoupées, confirmées. Par exemple, là, on parle beaucoup de la situation militaire à Al-Qusayr. Est-ce qu'il est possible de savoir exactement quelle est la situation militaire à Al-Qusayr aujourd'hui pour vous, Hervé Barre?
Je pense effectivement très difficile, puisque même les fois où moi je me retrouvais sur place, j'avais du mal parfois à comprendre. Bon, je ne suis pas arabophone, mais évidemment j'étais toujours accompagné de personnes qui parlaient anglais, enfin, de traducteurs. Mais une des autres particularités de ce conflit, c'est que vous avez une vision très parcellaire d'une chose. La situation varie d'une région à l'autre, d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, les interlocuteurs. Et ça varie géographiquement, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que le lendemain, un autre groupe peut être occupé les lieux, les rapports de force peuvent évoluer. Donc, on a une vision très parcellaire des choses sur place. Donc, c'est très difficile de dire, oui, moi, je sais ce qui s'est passé, voilà, c'est ça, etc. Même quand vous en êtes le témoin, moi, j'ai toujours beaucoup d'autres sur certaines choses. Je peux vous citer, par exemple, la montée en puissance des djihadistes. On ne s'est pas rendu compte du jour au lendemain, tiens, ils sont là. Où il y a des... Non, ça, c'est un phénomène sur plusieurs mois. On aperçoit des hommes en noir, on aperçoit des gens qui sont plus hostiles, on aperçoit plus d'étrangers. Les étrangers qu'on rencontrait avant sont manifestement plus agressifs envers les Occidentaux. Donc voilà, c'est tous ces petits signes qui font qu'au bout d'un moment, se dessine, apparaît cette réalité, se construit cette réalité. Oui, les djihadistes sont là.
Caroline Donati.
Mais on a effectivement un accès au terrain très difficile, mais aussi très très limité. Donc les journalistes peuvent aller dans le nord, donc là où est apparu les fameux djihadistes dont on parle. On a une vision parcellaire, étriquée. Aujourd'hui, l'actualité pointe la bataille de Qusayr.
Donc près de Homs, plus au sud.
Et ce qui, encore plus que pour les autres conflits, rend très très difficile d'avoir une image réelle du terrain. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des confitures, des rebelles, avec une image...
En réalité, on a un pays qui est coupé quatre...
Si on fait une recherche auprès d'acteurs du terrain, après confirmés ou pas par des chercheurs qui ont aussi leur accès aux propres sources, on a une situation tout à fait différente, où finalement, dans la bataille de Qusayr, c'est difficile d'avoir les détails, mais on voit que quand même les rebelles offrent une résistance, que la rébellion dans le nord du côté d'Alep n'est pas en si mauvaise posture que ça, et à Damas aussi. Donc on a cette vision-là qui est tronquée, et aussi je pense qu'il est important qu'il faut souligner, qui suit un petit peu, ou qui arrange, qui suit en tout cas la communication politique des gouvernements, et qui arrange, parce qu'aujourd'hui on est dans une logique de... solution politique parce qu'on ne veut pas s'engager davantage. Donc les États-Unis qui veulent encore, qui espèrent encore pouvoir travailler avec les Russes, sont en train de travailler à cette conférence de Genève. Donc on est dans l'idée d'une solution politique.
On va s'attarder évidemment sur cette évolution du discours dominant et ses liens aussi avec le discours politique parce que c'est évidemment un point important. Mais je voudrais quand même qu'on reste encore un peu sur cet accès à l'information, aux sources journalistiques sur le terrain. Parce que cette relative absence de journalistes professionnels envoyés par les rédactions conduit fatalement, mécaniquement, les médias à utiliser aussi beaucoup les vidéos amateurs. On sait qu'elles sont pour le coup innombrables, qu'elles nous arrivent des deux camps. On va prendre un exemple, puisque justement on parle d'Al-Qusayr ces derniers jours. Alors voilà, deux extraits sonores, deux vidéos postées sur Internet là ces derniers jours. Elles arrivent toutes les deux d'Al-Qusayr, où donc les combats sont très violents. Cette première vidéo, elle est signée d'un site d'opposants au régime d'Assad, Syria Watch. Elle met en évidence sur les images la résistance justement des rebelles à l'offensive du régime. Et puis on va en écouter une autre. Vous voyez, c'est très ressemblant. Vous allez voir, elle est tournée au même endroit. Cette fois, ce sont des partisans d'Assad sur un autre site qui s'appelle Syria Truth.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
عقب الحزب ضرب المنازل.
لم يستطيعوا أن يتقدموا فضربوا المدنيين.
Allahu Akbar.
Alors là, pour le coup, à l'inverse, sur les images, on voit évidemment les troupes régulières qui progressent et les rebelles qui s'enfuient. Comment on fait avec ces images? Parce qu'elles nous arrivent à profusion. Comment on régule? Comment on trie? Est-ce qu'il faut s'en servir? Pas s'en servir? Quel est votre avis les uns les autres sur cette question-là? Parce que là, pour le coup, il y en a. C'est pas ça qui manque.
Moi, je pense que c'est une source d'informations précieuses. Évidemment, le pouvoir a interdit dès les premiers jours de cette révolution l'accès de la presse internationale au pays. Il fallait, entre guillemets, montrer patte blanche, être un sympathisant du régime, appartenir à une télé russe ou du Hezbollah, etc. Le pouvoir n'a pas prévu ou n'a pas vu venir, on va dire, la facilité technologique qu'on a aujourd'hui avec les téléphones portables, avec YouTube, etc., qui permet à chacun d'être une agence de presse et à chacun d'être une télé en soi.
Mais est-ce qu'il y a des canaux qui permettent d'une certaine façon de vérifier, d'authentifier, de juger que telle vidéo est plus fiable qu'une autre ?
Oui, je pense qu'il y a, quand même. Je pense qu'il y a plusieurs canaux. Il y a d'abord le travail des activistes des droits de l'homme qui travaillaient avant la révolution et qui font un travail formidable de bilan. Et puis, vous avez aussi les autres ONG internationales comme Human Rights Watch qui font un travail formidable. Pour revenir, par exemple, à l'actualité, début mai, on a parlé de massacres sur la côte syrienne, à Beida, mais aussi à Banias. Et c'est très difficile de faire tout de suite un travail, un papier sur ce qui s'est passé là, parce qu'il faut du temps, justement, pour corroborer ces sources. Après, par rapport au côté régime, là, les vidéos, je pense que ces vidéos-là, elles vont nous renseigner sur la stratégie du régime. Je pense que le régime, s'il a gagné quelque chose aujourd'hui, c'est la bataille médiatique. Les révolutionnaires l'ont clairement perdu.
Et, disons qu'on est dans une phase, en tout cas, de cette guerre où les dernières batailles ont plutôt été remportées par le pouvoir, en tout cas.
Sur le plan médiatique, clairement. On est dans un niveau de violence inédite et la publicisation de ces images a un impact très 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 important sur le terrain, sur des clivages confessionnels.
Alors, on va prendre évidemment l'exemple le plus symbolique, emblématique, celui qui a fait le tour du monde il y a 10 jours.
اقسم بالله سوف ناكل من قلوبكم ومن قبودكم يا جنود بشار الكلب
Donc c'est la vidéo de ce commandant rebelle Abou Sakar, toujours dans la zone d'Al-Qusayr d'ailleurs, hein, se livrant. Donc vous avez sans doute vu ces images, au moins vous en avez entendu parler, à l'éviscération d'un soldat prélevant son foie et son cœur, puis faisant mine de manger ce cœur, puis criant « Nous jurons devant Dieu que nous mangerons vos cœurs et vos foies, soldats de Bachar le chien ». A priori, cette vidéo elle a été authentifiée, enfin il semble qu'il n'y a pas de doute là-dessus, hein, et que Abou Sakar en l'occurrence a revendiqué avoir fait ça. Hein. Mais on est en plein dans la guerre des images en même temps. Donc là, le pouvoir en place, vous le disiez, Caroline Donati, a marqué un point. En même temps, qu'est-ce qu'il faut faire de ces images-là? Là encore, c'est un peu la même question quand même, parce qu'elle est évidemment très spectaculaire, si j'ose dire.
Mais c'est pour ça que, en même temps, c'est un cas un petit peu particulier, parce que là, l'image elle-même devient une information. Le fait d'avoir une éviscération qui mange le cœur ou le poumon, je ne sais plus quoi, de...
Ça, ce qui relève du crime de guerre, hein, disons-le au passage.
Oui, absolument, mais ces images sont tellement fortes en elles-mêmes que là déjà, elles doivent être traitées.
Mais justement, il faut s'en méfier, des images qui sont des haul-cœurs.
Absolument, il faut les authentifier, ça a été fait assez rapidement d'ailleurs.
Human Rights Watch,
avec les journalistes du Times qui travaillaient dessus, c'est eux qui ont sorti l'histoire d'ailleurs. Donc là, c'est une histoire en tant que telle, l'image en tant que telle. Moi, je dirais que la grande majorité des images qui sortent de Syrie, quand elles ne sont pas authentifiées par les réseaux que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les activistes syriens ou l'OSDH à Londres, elles servent beaucoup, avec des limites, bien sûr. Elles servent d'alerte. Moi, elles m'ont beaucoup servi d'alerte. Par exemple, n'importe quoi, une base syrienne, vous apprenez que sur les réseaux de l'opposition et de la rébellion, vous voyez des images qui apparaissent avec les rebelles qui pénètrent sur cette base. Alors, évidemment, vous n'allez pas faire une dépêche ou un papier en disant « les rebelles ont pris la base ». Mais déjà, vous savez que sur les réseaux sociaux, vous avez des images qui vous font penser qu'il est possible que cette base ait été prise. Après, vous essayez de le confirmer d'autres sources. Donc ça a déjà un rôle d'alerte très important. Et moi-même, quand j'étais à Idlib, que je passais des semaines à Idlib, dans les endroits où j'étais allé ou dans les endroits où je voulais aller, ça me servait d'alerte et ça me servait de « tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Tiens, je vois tel groupe. Jusqu'à présent, c'était Al Al-Sham qui était très présent. Tiens, là, maintenant, c'est Choukour Al-Sham, c'est un autre groupe. » Donc c'est une source d'information très intéressante, mais à manier avec prudence.
Parce qu'au niveau des agences, Agence France Presse en particulier, il y a évidemment profusion d'images qui vous arrivent. Enfin, on a eu l'occasion déjà d'en parler dans cette émission une fois, mais c'est vrai que par exemple, au niveau des photos, il y a plein de photos qui arrivent et on ne sait jamais trop s'il faut les prendre au sérieux, pas au sérieux, si elles sont montées. Enfin, on sait que tous les trucages sont possibles maintenant. Ça ne doit pas être très simple quand même de faire le tri dans tout ça.
Non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve de la plus extrême prudence.
Amar, bravo.
Il faut être très vigilant. Je me souviens, un collègue d'une grande agence, il y a 2 ans, au début du conflit, est venu me voir un jour catastrophé parce que quelqu'un lui avait donné une clé USB sur laquelle il y avait la décapitation de quelqu'un. Donc des images extrêmement violentes et on lui disait « sale bassiste, chien, c'est ça que vous aurez tous ». Et donc on lui donne ça en lui disant « voici tes... » parce que c'était un journaliste occidental. On lui dit « voici tes amis de la liberté, voici ce qu'ils font, les rebelles, etc. » Et il était très embêté, voulait faire une dépêche, enfin il hésitait, et on a passé la nuit...
Ce qui est à l'arrière-plan des événements en Irak, hein.
Voilà,
on a eu ça. Hein.
Et alors on a passé la nuit à chercher, effectivement c'était une image qui datait de 2004 en Irak, et c'était les immeubles, etc., qui nous ont permis de retrouver cette... Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce travail, enfin je dirais que c'est le béaba, mais beaucoup de gens peut-être ne le font pas parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils veulent tweeter, parce qu'ils veulent aller très très vite de peur de la concurrence ou autre chose. Et je pense que c'est encore à nous de faire ce béaba, ce minimum de fact-checking, de vérifier les accents. Là, dans les vidéos que vous avez passées tout à l'heure, j'étais un peu surpris d'entendre, puisque je n'ai pas vu les vidéos, mais d'entendre sur la vidéo que vous dites gouvernementale, beaucoup d'Allah Akbar, alors que les soldats de Bachar ne disent pas forcément ça. C'est le genre de choses qui, par exemple, moi, peut me faire regarder après les tenues, les accents, revoir la vidéo, chercher sur d'autres réseaux ailleurs, en Irak, dans d'autres... Il y a beaucoup de vidéos qui viennent de Tchétchénie, qui viennent de Liban, par exemple. Alors, il faut être vigilant.
Allez-y.
Si vous permettez, oui. L'avantage que présentent ces images, bon, hormis les risques de manipulation, on est en plein de propagande de part et d'autre, etc., mais c'est une source considérable d'informations sur toute la nébuleuse djihadiste. Si vous analysez régulièrement, si vous regardez régulièrement les images de Jabhat al-Nusra, d'Al al-Sham, du front islamique syrien, etc., vous avez quand même, ça vous donne une petite idée de ce qui se passe. Par exemple, vous n'irez peut-être pas qu'il y a des tensions aujourd'hui. On se dit qu'il y a des tensions aujourd'hui au sein du Jabhat al-Nusra, qui est le principal mouvement djihadiste qui est montée en puissance
ces derniers mois. Oui, c'est ce qu'on lit, effectivement.
Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'en sais rien, mais ce que je constate, c'est que depuis environ un mois et demi, l'organe de propagande un peu officiel de Jabhat al-Nusra n'a sorti aucune vidéo jusqu'à présent. Ainsi que le Al-Furqan, l'organe de propagande officielle de Al-Qaïda en Irak. Donc, ça, c'est pas normal. Jusqu'à ce que cette querelle apparaisse, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est apparue lorsque al-Baghdadi, le chef d'Al-Qaïda en Irak, a proclamé que al-Jabhat al-Nusra, c'est nous et ils combattent sous notre autorité. Et le lendemain, vous avez al-Julani, le chef de Jabhat al-Nusra en Syrie, qui dit nous faisons allégeance à Al-Qaïda, mais nous combattons en tant que Syriens, nous ne sommes pas sous l'autorité des Irakiens. Bon, ça peut paraître un peu des histoires de corne au cul, mais c'est fondamental.
Non, c'est des histoires quand même assez importantes. Il faut se méfier aussi de cet affichage très... C'est vrai que ces vidéos-là sont un moyen. Moi, je pense qu'il faut rester, ce que vous aviez dit tout à l'heure, alerte. Et après, à nous de vérifier.
Les prendre parce pour ce que c'est.
Voilà, parce qu'il y a un affichage aussi islamiste, une compétition, et donc grande prudence.
Les regarder avec la loupe de grande
prudence. Il faut aussi voir, et pour les auditeurs, c'est intéressant, la destination de ces vidéos. C'est-à-dire qu'au départ, notamment dans les manifs, il y avait vraiment un véritable souhait d'information, où on voulait contrer l'information officielle et dire voilà ce qui se passe, il y a une manif à tel endroit. D'ailleurs, les gens mettaient la date devant, mettaient le lieu, etc. Enfin, il y avait une vraie volonté de témoignage. Et là, aujourd'hui, avec tous ces groupuscules plus ou moins déclarés, là, l'objet est différent. Là, c'est souvent de la promotion. C'est des vidéos promotionnelles pour avoir de l'argent, pour avoir des aides.
D'où l'affichage.
Et, voilà, il y a des affichages, il y a des logos.
Chaque brigade a son service de presse,
etc. Et ça n'est plus forcément de l'information. Là,
je voudrais qu'on poursuive encore un peu sur cette guerre des images. Syrie, le vent médiatique dominant est-il en train de tourner ce matin dans le secret des sources sur France Culture avec trois confrères spécialistes de la Syrie, Hervé Barre de l'agence France Presse, Caroline Donati de Mediapart et le photographe Amar Abdrabo. Et donc, je voudrais qu'on poursuive dans cette guerre des images avec un autre fait marquant. Et là, je me tourne évidemment vers l'homme du multimédia, Eric Chavroux. C'est la place occupée par Internet, on l'a bien compris. Et on est particulièrement quand même frappé, Caroline Donati faisait un peu allusion tout à l'heure, par la structuration, le professionnalisme du régime et de ses partisans. On a beaucoup parlé de la professionnalisation des cyber-reporters côté opposition, on l'a beaucoup dit. Mais c'est très professionnel aussi du côté du régime. Et en particulier, il faut souligner ces récents, passez-moi l'expression, faits d'armes sur Internet d'une mystérieuse armée électronique syrienne.
Et ces soldats inconnus virtuels, ils se présentent, je les cite, comme de jeunes Syriens qui défendent le peuple arabe syrien contre les campagnes menées par les médias arabes et occidentaux. Ils se disent sans lien avec le régime. Et leurs pires ennemis, les Anonymous, sont plutôt d'accord. Sauf que des spécialistes estiment, eux, qu'ils sont au moins coordonnés par le régime. Et d'après CNN, les noms de domaine de leur site auraient été enregistrés par une société qu'a dirigé Bachar el-Assad. Assad qui les a d'ailleurs officiellement qualifiés de véritables armées sur Internet et qui les a remerciés dès juin 2011. Ils venaient juste de se lancer sur une page Facebook avant de lancer leur site et d'innombrables attaques, notamment en réponse à celles qui visaient l'administration syrienne.
Avec une cible prioritaire qui sont les grands médias américains.
Oui, de grands médias et des fournisseurs d'informations au monde entier, avant tout américains, effectivement, ou considérés hostiles à Damas, même si au départ, les objectifs de cette armée électronique syrienne étaient plutôt plus divers. Il y avait eu le site de l'université d'Harvard avec sa page d'accueil envahie par Bachar el-Assad en tenue militaire, ou même, semble-t-il, les commentaires de la page Facebook de Nicolas Sarkozy, il y a même 2 ans. Et puis, ça s'est concentré, effectivement, sur des sites comme celui de la radio publique américaine ou d'Al Jazeera en anglais, ou encore le blog de l'agence Reuters. Et leur fait d'armes majeur,
plus spectaculaire, ouais,
date d'il y a un mois, via une autre de leurs spécialités, le piratage des comptes Twitter. Après celui du département photo de l'AFP, ça c'était en février, il y a un mois, donc il s'attaque à celui d'AP, à cette presse, et l'agence de presse américaine, du coup, diffuse un tweet de 2 explosions à la Maison-Blanche, Barack Obama étant blessé. Très vite, c'est transféré en masse. La bourse américaine
plonge.
Plonge. Et du coup, conséquence directe aussi, pas plus tard que mercredi dernier, là, Twitter annonce de nouvelles mesures de sécurité.
Ça, c'est le plus spectaculaire, mais en réalité, au jour le jour, il y a tout un tas, une pléthore de petites actions, on va dire, de déstabilisation. Ça, c'est non-stop.
Oui, alors c'est impossible d'être exhaustif. Vous en évoquiez déjà une, c'était la structuration des vidéos des pro-Assad, de quelle façon ils ont réussi à parfaitement s'organiser, avec ce slogan qui revient toujours de « la vérité », avec des sous-titres en anglais pour bien expliquer ce qui se passe à l'écran, et puis même certaines vidéos qui font le comparatif à l'intérieur même de la vidéo entre d'abord celle de la vidéo des rebelles et puis ensuite celle des pro-Assad qui explique ce qui s'est vraiment passé. La vidéo qui sert aussi à manipuler l'avis d'experts, ça c'était il y a un peu plus d'un an l'islamologue Olivier Roy qui a alerté par des amis qui lui dit bah, tu es en train de défendre Assad. Il dit non. Et en fait, il se rend compte qu'il y a une fausse interview de lui par France 2 qui est en train de circuler sur Internet. C'est peut-être une énième idée des autorités qui ont quand même une très longue expérience. On va rappeler, faut le rappeler, que RSF classe la Syrie depuis des années comme ennemi d'Internet et qu'ici même, il y a déjà un an, je vous parlais de très forts soupçons de logiciels espions à l'encontre de cyberactivistes.
Est-ce que dans cette guerre des images, Caroline Donati, on a sous-estimé le professionnalisme d'Assad et des partisans du régime ?
Oui, je pense qu'on a sous-estimé les capacités de nuisance du régime. Bon, ce qu'on évoque là, la guerre Internet, elle est réelle. Il y a une présence, donc il y a cette fameuse armée électronique, les pages Facebook des loyalistes, ces petites attaques. Mais ça, je pense que c'est plus anecdotique par rapport à ce que je dirais la stratégie de terreur que j'évoquais tout à l'heure, et qui passe vraiment par ces images. Ces vidéos circulent sur Internet, elles sont relayées par les pages Facebook loyalistes. Je fais référence à une vidéo suite à l'attentat qui s'est produit en Turquie, où on voit un chef d'un mouvement de résistance syrienne, mais qui est en fait un chef de milice, et qui parle de nettoyer la côte de tous les sunnites. Cette publicisation a un effet dévastateur. Elle pousse sur les clivages, elle antagonise les communautés. On glisse vers une guerre civile si on n'est pas déjà. On parle aujourd'hui à la suite de ces massacres de la côte, de nettoyage ethnique. On n'y est pas encore, mais on est dans un espèce de nettoyage par la peur, en fait. Et ces images-là ont un effet très important. Ensuite, par rapport à la stratégie du régime, qui est, même si on est dans un niveau de violence inédit, il dose la violence, mais il va obliger l'opposition à être dans une communication de une dénonciation. Que fait l'opposition aujourd'hui, ou du moins les réseaux médiatiques de l'opposition? On est dans une décommuniquée de dénonciation, de démenti. Ils sont croulés là-dessus. Et par rapport à l'autre thème que vous voulez aborder sur la question des armes chimiques...
On va y venir dans un instant.
À force de parler d'armes chimiques, le moment où il y a un vrai recours, c'est complètement banalisé. Donc c'est bien plus insidieux. Moi, je parle de cette professionnalisation. Là, on a sous-évalué cette stratégie.
Ça contribue terriblement à la confessionnalisation du conflit.
Oui,
mais si vous permettez,
juste
remarque.
Juste brièvement, et après on va parler des armes chimiques.
Ce qui a quand même le plus nuit, certes, c'est cette riposte du régime s'est professionnalisée, elle est efficace, mais ce qui a le plus contribué, le plus nuit à la rébellion, c'est cette vidéo d'éviscération. Et là, c'est une faute terrible de ce chef rebelle.
Le secret des sources sur France Culture et sur franceculture.fr pour tous vos commentaires, vos suggestions, vos critiques. Vous n'hésitez pas comme toujours. Je vous le disais, dans quelques instants, on va se pencher sur la question des armes chimiques. Auparavant, quelques notes de musique. Parce qu'il y a eu aussi, depuis le début de la guerre civile en Syrie, plusieurs chansons assez symboliques. On se souvient en particulier du Bachar, il faut partir, hein, de Ibrahim Kachouch, qui avait été assassiné peu après. Une chanson qu'on avait écoutée ici dans le secret des sources. Alors voilà une autre, très différente, beaucoup plus récente, qui a un succès colossal. Mais ce succès dit aussi quelque chose de la situation actuelle. Elle a été vue 6 millions de fois sur la toile ces dernières semaines. Elle fait un tabac dans une grande partie du monde arabe après sa présentation dans l'émission Arab Idol, l'équivalent au Liban de la Nouvelle Star, si vous voulez. C'est un chanteur syrien venu d'Alep, Abdelkarim Hamdan, qui pleure le sang versé. Alors, sa chanson a suscité la controverse. Les uns l'accusent d'être pro-régime, les autres d'être pro-rébellion. Lui, il se défend de tout et il se contente de chanter. Hamdan pleurant les morts de sa ville d'Alep lors de l'émission Arab Idol au Liban, ça vous faisait réagir pendant que les micros étaient fermés là?
D'abord, c'est très émouvant parce que c'est des chansons traditionnelles alépines. Donc Alep est très connue pour ses chansons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même aujourd'hui, donc 2 ans après les massacres, les manques d'eau, d'électricité, Jabhat al-Nusra, les islamistes, tout ce qu'on veut, à Alep, il y a encore toutes les semaines 2 ou 3 manifestations où on chante, où on danse. Alors, on ne le voit pas à la télé parce que ce n'est pas très télégénique, forcément. Enfin, on préfère voir des barbus vociférants. Mais ça, c'est toujours très touchant et très, très émouvant, cette espèce de résistance et d'amour de la vie des Syriens.
Alors, il y a donc un autre propos qui a fait couler beaucoup d'encre ces 2 dernières semaines et qui a contribué aussi, sans doute, à faire tourner un peu le vent médiatique. C'est donc ce propos début mai de Carla Del Ponte, l'ancienne procureure du TPI, membre de la commission d'enquête sur les crimes de guerre en Syrie.
During our investigation for crimes against humanity and war crimes, we collect some witness testimony that made to appear that some chemical weapons were used, in particular Nervine gas. And what appeared to our investigation that was used by the opponents, by the rebels.
Carla Del Ponte affirmant donc avoir recueilli des témoignages qui laissent penser que des armes chimiques, du gaz inervant en particulier, ont pu être utilisées par la rébellion. Les propos ont ensuite en partie été démentis par l'ONU. Ils ont d'ailleurs été utilisés de façon très variable par les médias. Certains ont utilisé l'affirmatif, d'autres le conditionnel. On a senti les médias occidentaux très embarrassés, enfin partagés sur ce sujet, à la fois séduits par le caractère nouveau. Dès que c'est nouveau et que c'est inattendu, évidemment, les médias sont séduits. Et en même temps embarrassés parce que ça révise la grille de lecture initiale.
C'est surtout un sujet... clé.
Donc, dans sujet conflit. Clé, c'est donc, la fameuse ligne rouge fixée par Barack Obama.
Voilà, donc ça explique quand même une certaine prudence sur le sujet.
Mais là, je dirais qu'on est vraiment dans le titre, ouais, de votre émission, là, c'est le secret des sources, parce que beaucoup de ces rapports trouvent leurs sources dans une collaboration avec le régime de Damas. Et donc, du coup, forcément, le régime de Damas a plutôt tendance à charger les rebelles. Donc, il faut se souvenir que l'ONU, ou les grands services secrets occidentaux, sont encore très proches dans leurs rapports, dans leur quotidien, du régime de Bachar. Et que forcément, à un moment ou à un autre, il y a une espèce d'intoxication qui arrive.
Caroline Donati,
oui, et puis, de toute
intoxication
façon, des bases pas très solides. De toute façon, l'ONU, la commission d'enquête a quand même relativisé les propos de Carla Del Ponte, qui peut aussi faire ce genre de déclaration pour asseoir son image d'incorruptible.
Est-ce que les médias ont la moindre possibilité de vérifier quoi que ce soit sur cette question des armes chimiques ?
Alors, si vous permettez, moi, j'ai eu la chance d'être témoin de la prise de la base de Cheikh Souleymane, qui est à l'ouest d'Alep, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Alep, qui est une base où il y a un centre, c'est assez connu à Alep, les gens savent qu'il y a un centre d'études ou de centre scientifique chimique. Cette base a longtemps été assiégée par les rebelles. Les islamistes Jabhat al-Nusra en particulier ont attaqué, ont pris l'initiative d'attaquer, prenant de vitesse les autres unités rebelles de l'ASL, enfin de l'armée libre qui a assiégé la zone. Ils s'en sont emparés. Donc il est très probable que Jabhat al-Nusra ait accès à des composants chimiques. Je n'ai pas dit des stocks, mais des composants chimiques. Donc toutes les manipulations sont possibles.
Parce qu'en même temps, enfin, on le sait tous, si j'ose dire, on nous a déjà fait le coup sur les armes chimiques. Enfin bon, 2002, etc., les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Bon,
non, mais voilà. Là, c'est à l'envers.
Mais là, c'est à l'envers, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, on nous a déjà fait le coup sur la justification d'éventuelles interventions dans un sens ou dans l'autre avec les armes chimiques. Donc c'est vrai qu'on a tendance quand même, enfin, espérons-le, à être un peu méfiant là-dessus.
Mais c'est la manière dont c'est mis en forme, dont ça apparaît, qui a pour effet de mettre les deux parties sur le même plan, alors que les exactions côté rebelles en aucun cas ne peuvent valoir ceux du régime. Et c'est ça qui est dramatique dans les propos de Carla Del Ponte, de faire une sortie comme ça. Après, cela peut arriver comme vous... Enfin, mais ça mérite enquête. On ne fait pas une déclaration...
Je vais plus loin, oui. Même. Je dirais que les propos de Carla Del Ponte ont tué des Syriens depuis 15 jours ou 3 semaines.
Il faut contextualiser.
Il faut pas se cacher derrière des conditionnels ou des choses comme ça. Il y a eu des Syriens qui sont morts
en même temps,
à cause de ces propos.
Il y a des informations qui sont sorties dans l'autre sens quand même. Par exemple, la BBC, il y a quelques jours, disait que les analyses effectuées par les laboratoires britanniques à Porton Down, qui sont des gens spécialisés là-dedans, disaient que oui, il y avait des gaz qui avaient été utilisés par le régime.
Mais là, c'est une autorité quand même morale, c'est important.
Mais excuse-moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Jabhat al-Nusra a utilisé des composants chimiques. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le régime sait parfaitement que Jabhat al-Nusra s'est emparé d'une base où donc ce régime qui est capable de tout, va faire en sorte,
il est capable,
va manipuler. Moi, si je suis ce régime, qu'est-ce que je fais ? Je fais semblant de mener une attaque chimique en accusant le Jabhat al-Nusra. Et quand vous connaissez Jabhat al-Nusra, ils sont aussi capables de faire une attaque chimique artisanale accusant le régime. Donc tout est possible. Ce qui est très intéressant, c'est que ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, ce sont des petits incidents. C'est toujours artisanal. C'est évidemment pas, on va pas assister, comme on l'a vu en Irak ou... avec une offensive, des bombardements massifs d'armes chimiques, qui sera un suicide pour le régime, bien évidemment. Mais ce à quoi on assiste, ce sont des petits incidents, très, comme si c'était des tests comme ça, comme si c'était des tests de tentatives de manipulation ou de...
Non, et puis le régime a tout à fait les moyens d'infiltrer ou des éléments peuvent vendre
absolument
à des éléments miliciens. Donc voilà, donc ça relève du propos, mais... Du possible, mais ça déplace la réalité du débat qui était la fameuse ligne rouge des armes chimiques et qui aujourd'hui n'existe plus. Et là,
on voit bien
que
Barack Obama est un peu embarrassé d'ailleurs par sa propre formule
fameuse,
de la ligne rouge.
C'est là où on est dans cette fameuse banalisation ou le cynisme du régime qui surtout ne va pas commettre un al-Abja. Ce sont des petits, voilà, et on arrive à une banalisation et il fait ce qu'il veut.
Allez, comme toujours, on va essayer de prendre un peu de recul sur tout ce dont on parle depuis le début de l'émission. Jean-Marie Charron, vous êtes, je le rappelle, membre de notre petit cercle d'observateurs des médias, sociologue des médias, chargé de recherche au CNRS. Vous écoutez attentivement depuis le début. On voit bien que les médias occidentaux sont un peu embarrassés maintenant par ce traitement du conflit syrien, qui a de multiples raisons à cela. On en a évoqué quelques-unes, mais il y en a d'autres dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission. Je voudrais qu'on s'y arrête avec vous. Peut-être le premier élément, c'est que c'est cette éternelle redécouverte de la guerre civile, avec ce qu'elle comporte de dureté, aux deux sens du terme d'ailleurs. C'est-à-dire, ça dure, et c'est très dur, c'est sale, c'est compliqué.
Oui, je crois qu'on est, effectivement, on est passé d'une période où on a parlé de révolution, on a fait référence au printemps arabe, et puis progressivement, on est entré dans cette guerre civile. Et là, je crois qu'il faut se souvenir que ce que c'est qu'une guerre civile, c'est-à-dire que c'est toujours un processus lent, un processus long. J'ai noté un peu, là, en revenant sur la mémoire des choses, une dizaine d'années, les Balkans, la Tchétchénie, 15 ans, la guerre du Liban, 26 ans, celle du Sri Lanka. Donc des processus extrêmement lents. Et puis effectivement, toujours cette brutalité, cette dimension extrêmement meurtrière. On a parlé tout à l'heure, vous avez dit, on approche peut-être des 100 000 morts. Il faut se souvenir que la guerre du Liban, c'est 130 à 250 000 morts. Mmh. Bah, c'est le flou d'ailleurs, hein, pour une population d'à peine plus de 4 millions d'habitants. Les Balkans, c'est 200 à 300 000 morts. Donc on est. Alors pourquoi d'ailleurs on a ce caractère extrêmement meurtrier? Évidemment, il y a. Parce que les guerres civiles partent toujours d'un niveau d'exaspération entre communautés, entre classes ou vis-à-vis d'un régime dictatorial qui fait qu'effectivement on va avoir un processus d'explosion. Mais aussi parce que dans la guerre civile, contrairement à la guerre traditionnelle, la frontière entre le militaire, le combattant et la population s'estompe. Et elle est parfois d'ailleurs niée. Par l'un des combattants. On le voit bien d'ailleurs souvent de la part du régime aujourd'hui en Syrie, à partir du moment où il est... Quand vous évoquiez les tirs, les bombardements, on bombarde de manière indifférenciée les populations civiles. Et puis il y a ce phénomène de durée. Enfin, la durée, c'est pas simplement que c'est pénible pour les uns et pour les autres, c'est que les haines s'exaspèrent et plus on avance dans toutes les guerres civiles, plus on avance dans le temps et plus on voit que les lignes rouges sont franchies.
Et plus on réalise aussi que c'est complexe, qu'on ne peut pas être dans une ligne de partage simple, voilà, qu'il y a des multiples quand même lignes de partage, et particulièrement sur la Syrie, enfin, voilà, que ce soit sur la grille confessionnelle, évidemment, mais les grilles diplomatiques derrière. Enfin, il y a des multiples grilles de lecture, on n'est pas sur un truc simple. Et ça, c'est pour les médias toujours compliqué. Hein,
oui, surtout que la tentation, effectivement, c'est d'essayer de plaquer... une grille d'analyse qui, elle, peut être nourrie par une connaissance approfondie du contexte, mais d'essayer d'y plaquer, pour rendre les choses apparemment pédagogiques, des éléments de la réalité. Et donc d'essayer de faire porter, par exemple, les exactions à un camp plutôt qu'à un autre. Ça a été beaucoup fait, par exemple, au moment du conflit des Balkans, où on a dit certains viols, les autres non. En fait, quand on regardait sur le terrain, on s'apercevait que c'était beaucoup plus compliqué. D'autant plus que, comme vous l'avez beaucoup dit, les processus de propagande, de manipulation, vont venir effectivement compliquer fortement les choses.
Ça veut dire, et là ça nous ramène au point de départ, que la seule solution, la seule réponse possible, c'est d'aller sur le terrain.
Je crois que c'est la seule réponse possible. Il y en a trois.
Journalistique, en tout cas, s'entend.
Oui. Je crois qu'il y en a trois. Elles ont toutes été citées ici. Un, effectivement, c'est à chaque fois que c'est possible d'aller sur le terrain, il faut témoigner, etc. Deux, c'est la modestie et en même temps le courage du travail du journaliste qui doit vérifier, revérifier. Et c'est compliqué, effectivement, dans un contexte où on va de plus en plus vite, et en même temps, parfois, on cherche le spectaculaire, y compris parce qu'on se dit, c'est tellement long qu'il faut relancer l'intérêt. Je pense que le troisième élément, c'est qu'il faut en revenir aux fondamentaux. Il faut réexpliquer ce que sont les enjeux et il faut recourir aux experts, aux connaisseurs de... Même s'il y a d'ailleurs controverses et accepter d'ailleurs les controverses, il faut fournir d'ailleurs au public et à l'opinion publique des grilles de lecture, des grilles de compréhension, parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'opinion ne dépend plus que des médias. Elle dépend aussi de ces fameux réseaux sociaux et toutes les images dont vous nous avez parlé tout à l'heure, elles y accèdent directement. Il suffit d'aller sur YouTube.
Hervé Barre,
si vous permettez, la complexité ne doit quand même pas masquer les faits, ne doit pas nous rendre amnésiques. Dans cette guerre, malgré toutes les difficultés de couverture, ce à quoi on a assisté, c'est un régime fou qui massacre son peuple. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont.
C'est pour ça qu'il faut revenir aux fondamentaux.
C'est un an de manifestation pacifique, réprimée dans le sang, avec un mouvement pour la liberté qui tourne à la lutte armée parce qu'il n'a pas d'autre alternative, sans aucun soutien international ou si peu. Nous, journalistes, nous avons été suffisamment nombreux et on peut témoigner, même malgré les difficultés de notre travail au quotidien, malgré la faible marge de manœuvre, on a tous vu et on en a témoigné.
Est-ce qu'il y a, Hervé Barre, Caroline Donati, Amara Bravo, une tentation des médias de détourner les yeux parce que la guerre devient trop longue, trop dure, trop sale? Alors même que c'est quand même notre travail de montrer justement, a fortiori, l'inhumanité quand elle arrive.
Dans les médias, c'est assez complexe, c'est assez vaste. Je pense que les journalistes et les reporters de terrain ont très envie de montrer son outrer, enfin ce que vient de dire Hervé, tout, c'est ce qu'on a vu, c'est les gens avec qui on a vécu, qu'on a au téléphone régulièrement, etc. Donc forcément, on a très envie de témoigner et de raconter ça et d'éviter tout oubli et tout amalgame entre le bourreau et la victime. Mais c'est vrai que dans les médias, il y a aussi par exemple, moi, j'ai des amis qui travaillent dans les télés. Ils vous disent que les gens qui s'occupent de la publicité leur disent « Attention, quand vous parlez de la Syrie, les gens zappent et on perd 30% de parts de marché. » Donc c'est aussi une réalité. Je veux dire, il ne faut pas se cacher. On n'est pas des oraux, on n'est pas des philanthropes. Il y a des entreprises derrière, il y a une industrie. France Culture peut nous recevoir pendant une heure pour parler de ça. Il y a énormément de médias qui peuvent pas le faire et c'est aussi le problème.
Caroline
Donati. Oui, et puis quand le discours dominant médiatique sur la Syrie est devenu « nous sommes dans une guerre civile et qu'on est dans le primat de l'actualité », c'est très difficile de donner une autre lecture qui serait de revenir aux fondamentaux « c'est une révolution ». Comment les Syriens font face à cette violence qui est inédite par rapport aux autres guerres que vous avez citées. Et ça, c'est, il faut avoir un média suffisamment souple pour pouvoir donner ce genre d'informations. Et si tout à l'heure je disais que les révolutionnaires ont perdu cette bataille médiatique, c'est que très très vite, on a parlé de guerre civile et non plus de révolution. Et qui dit guerre civile, après il y a une logique politique. Hein. Guerre civile, c'est on termine une guerre civile par des négociations autour d'une table politique et c'est la solution politique que Bachar est en train de vouloir imposer.
Mais encore une fois, est-ce qu'il y a une tentation de détourner les yeux face à quelque chose qui est trop long, trop dur, trop sale ?
Lassitude, peut-être, mais détourner les yeux, je pense pas. Mais comment l'aborder, comment en parler ?
Comment passer aussi donc d'une grille de lecture parfois trop simple à une grille de lecture complexe, à plusieurs entrées, impossible à résumer en 30 secondes, défis fréquents, récurrents pour les médias sur plein de sujets, et c'est l'objet du clin d'œil final de Yacine Bouzard, qui, comme toujours dans Le Secret des Sources, a le privilège d'avoir le dernier mot.
Comme vous le savez, une des règles fondamentales du journalisme, ce sont les 5 W. Where, who, what, when, why. Prenons l'exemple de la Syrie. Où la Syrie ? Qui ? Deux protagonistes, le président Assad d'un côté, les rebelles de l'autre.
On ne va pas négocier sa sortie, il doit sortir, point à la ligne.
Quoi ? La révolution en Syrie ? Quand ? Début des combats en mars 2011. Et pourquoi ? La chute du régime dictatorial.
Mais s'agissant du « où », ce n'est pas aussi simple. Dans le camp Assad, il y a les Kurdes du pays grec, les chiites du Hezbollah, soutenus par l'Iran, la Russie, la Chine.
Vous avez raison.
La Russie et la Chine ont décidé de soutenir inconditionnellement le régime syrien.
Et l'autre camp ? Les rebelles, qui sont-ils ? Des Syriens sunnites, des djihadistes d'Al-Nusra, des chrétiens, la Turquie, le Qatar, Israël, la France, les États-Unis.
Mais ça se complique là, ça se complique beaucoup trop.
Vous nous demandez de faire un papier en une minute pour décrire tout ça sur la situation en Syrie ?
Simplifions. D'un côté, le méchant, Assad. De l'autre côté, les gentils, ce sont les rebelles.
Allez, c'était le clin d'œil de Yacine Bouzard. À vous de jouer, de réagir, de réécouter, de télécharger, de commenter, bien sûr, sur franceculture.fr ou sur les réseaux sociaux. Syrie, le vent médiatique est-il en train de tourner ? Caroline Donati, Hervé Barre, Amar Abdrabeau, Éric Chavroux, Jean-Marie Charon étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Un grand merci à tous. Caroline Donati, on doit toujours pouvoir trouver votre livre, hein, L'Exception Syrienne. Et puis, je crois qu'il y a un web reportage en préparation, c'est ça ?
Enfin,
il y a déjà des choses sur le site de Mediapart. Oui, voilà. Dans un instant, juste après le journal d'Olivier Denray, réplique avec Alain Finkielkraut ce matin, l'esprit Canal, comprenez, Canal+. Prenez soin de vous.
Moi, j'ai des amis qui travaillent dans les télés, ils vous disent que les gens qui s'occupent de la publicité leur disent « Attention, quand vous parlez de la Syrie, les gens zappent et on perd 30% de parts de marché. » Donc c'est aussi une réalité, je veux dire, il ne faut pas se cacher, on n'est pas des oraux, on n'est pas des philanthropes, il y a des entreprises derrière, il y a une industrie.
Si tout à l'heure je disais que les révolutionnaires ont perdu cette bataille médiatique, c'est que très très vite, on a parlé de guerre civile et non plus de révolution.
La situation varie d'une région à l'autre, d'un village à l'autre. Et ça varie géographiquement mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que le lendemain, les rapports de force peuvent évoluer. Donc on a une vision très parcellaire des choses sur place. Donc c'est très difficile de dire « oui, moi je sais ce qui s'est passé, voilà, c'est ça, etc. »